chansons, et ceux qui ne sont pas, et qui veulent qu'on le croit, ceux qui vont à l'église parce que c'est la coutume, et qui changent de chemise et mettent un beau costume, ceux qui dorment 20 heures car rien ne les en empêche, ceux qui se lèvent de bonne heure pour aller à la pêche, ceux pour qui c'est le jour d'aller au cimetière, et ceux qui font l'amour par eux qui n'en ont rien à faire. En vivre notre bonheur, tout comme j'en vis le leur, d'avoir des dimanches, d'aimer les dimanches, de croire aux dimanches. Quand je hais les dimanches,
Radio Pleine Lune sur 83,9 MHz. Radio Pleine Lune, c'est la radio des femmes sur Radio Zone. 93,8 MHz. Je m'excuse. C'est Radio Pleine Lune, c'est la radio des femmes sur Radio Zone tous les mercredis soirs à partir de 17h30. Ce soir, en direct, nous sommes quelques femmes, nous sommes en train de témoigner, de discuter, de raconter ce que Simone de Beauvoir a représenté pour nous. Et nous continuons le débat en abordant le thème du futur, de l'avenir. Donc, on essaye de voir comment les nouvelles générations de femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles qui en 20 ans, en 1986, peuvent concevoir, se représenter ce qu'est Simone de Beauvoir et ce qu'est le féminisme en général. Je pense que là-dessus, il y a vraiment un clivage de génération très important, et que certains thèmes, certains mots qu'on utilise, une certaine pratique, un certain passé, une certaine expérience de notre génération ne leur parlent pas directement.
D'abord, je me demande si dans les collèges, on étudie encore Simone de Beauvoir. Je crois que ce serait intéressant à savoir. Mais... C'est vrai qu'il faudrait se poser la question sur les jeunes femmes qui ont 20 ou 25 ans. Est-ce qu'elles sont encore interpellées par Simone de Beauvoir? Est-ce que, par exemple, quand on a 20 ans, on peut encore se dire, à l'heure actuelle, dans les conditions économiques actuelles, et surtout dans la grande incertitude dans laquelle se trouvent la plupart des jeunes à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut encore se dire le mariage, il n'en faut pas? Est-ce qu'on peut encore se dire moi, je veux pas d'enfants? Est-ce qu'on peut encore se dire le travail, c'est une libération? Et vraiment, je crois que ça, c'est des questions assez angoissantes, parce que je crois que la majorité des jeunes sont dans une grande incertitude. D'abord, ils ont pas beaucoup de capacité pour anticiper l'avenir. Où qu'ils aillent, dans les cycles ou dans les collèges, on leur dit que c'est bouché, il n'y a pas de filière, il y a la crise, il faut plutôt qu'ils prennent des choses utiles, efficaces, enfin immédiatement. Et c'est vrai que pour une majorité de jeunes femmes, le mariage ou l'enfant, ça représente le refuge. Ça représente souvent le dernier lieu, en quelque sorte, où elles peuvent faire des projets. Et moi, je me souviens dans plusieurs formations, mais une qui m'a beaucoup marquée, où justement j'entendais ce type de discours dans une école d'infirmières, donc qui avait 20-25 ans. Donc, je leur ai dit, mais enfin, alors, justement, à cause de l'allongement de l'espérance de vie, mais alors, et à 50 ans, qu'est-ce que vous ferez quand vous aurez 50 ans? Et vraiment, il y a eu un silence assez terrorisant, parce que là, alors, on mettait fin à leur carrière de mère. Et elles savaient plus ce qu'elles allaient faire. Parce que là, les enfants étant partis, elles se retrouvaient face à elles-mêmes et face à ces choix, peut-être. Alors, je crois que vraiment, chez les très jeunes, on a vraiment d'autres problèmes économiques. On a vraiment un horizon social qui est extrêmement limité. Et où les garçons, comme les filles, mais comme les garçons, il faut qu'ils aient un métier. De toute façon, le choix se pose même pas. Hein. Les filles, elles croient encore, ou alors elles font comme si qu'elles, en se mariant, en ayant des enfants, elles auraient là peut-être un lieu de vie, des valeurs, enfin affectives, de tendresse. Enfin, et c'est peut-être là qu'elles devraient peut-être se rappeler les interrogations de Simone de Beauvoir. Parce que si pour Simone de Beauvoir, c'était des choix qui étaient exclusifs, je crois que pour les jeunes filles à l'heure actuelle, c'est vraiment une espèce d'illusion. Il y a vraiment cette illusion que les valeurs affectives, la tendresse, l'amour ne sont que liés au mariage ou aux enfants. C'est ça la valeur dominante, ce fameux repli sur des valeurs narcissiques dont on nous rabat les oreilles depuis la crise économique, hein, depuis 5-6 ans, c'est bien ça. Et je crois que c'est les femmes et les jeunes femmes qui en sont probablement les premières victimes. Et que justement, elles n'arrivent pas du tout à anticiper un autre projet que celui-là. Et de plus, les choix professionnels sont quand même extrêmement limités. Alors, dans les sociétés où le chômage sévit de façon assez radicale comme la France, on voit très très bien que l'âge du mariage est en train de descendre. Enfin, ça c'est assez évident. Et qu'il y a moins de femmes chômeuses, tout simplement, parce qu'elles ne se déclarent pas. Mais dans une société comme la société genevoise, où on fait comme s'il n'y avait pas de crise, où on fait comme s'il n'y avait absolument pas de problème professionnel, alors on voit... les filières tout à fait bouchées se développer de façon abondante, surtout pour les jeunes femmes. On voit, comme on a vu dans le travail de Keller Hals, chez les jeunes étudiantes, le désir à mener famille et carrière ensemble avec des étudiants tout à fait désireux de partager les tâches. Et puis deux ou trois ans après, quand réellement l'enfant est arrivé, le blocage de la carrière est absolument inévitable. Je crois que chez les jeunes, justement, il y a ce discours qui est tout à fait perverse et qui ne se pose plus du tout dans les mêmes termes que celui de la société dans laquelle a vécu et a été élevée Simone de Beauvoir. Il y a vraiment de nouvelles illusions qui sont en train de se faire jour chez les jeunes femmes, avec probablement aussi des difficultés à adhérer au mouvement féministe, dont souvent elles disent que c'est le mouvement de leur mère et dans lequel elles ne se reconnaissent pas. Mais et c'est peut-être aussi l'aspect réactionnel que beaucoup d'entre nous avons vécu contre nos propres mères, mais aussi probablement parce qu'on n'a pas su reformuler leur choix de femme dans la société d'aujourd'hui. Et moi, je crois que c'est peut-être notre tâche, justement, ces femmes de 40 ans, des femmes plus âgées, c'est probablement notre tâche de les aider à reformuler leurs propres questions de femmes à elles, dans la société où elles sont. Et celles que sur lesquelles on avait été interpellées par Simone de Beauvoir ne sont pas caduques. Leur apprendre à devenir sujet de leur propre vie. Non pas de se réfugier sur un mariage ou des enfants qui sont alibis, parce qu'on sait très bien qu'un mariage sur trois à Genève aboutit à un divorce. On sait que la plupart du temps, dans ces divorces, c'est les femmes qui en paient le prix. C'est les femmes qui payent le prix de la pauvreté, de la vieillesse, de l'isolement. Enfin, et tout ça, on le sait. On le sait, on leur indique par chiffres. Mais on n'arrive pas à les interpeller au niveau vraiment de leurs valeurs et au niveau vraiment de qu'est-ce que ça veut dire leur destin pour elles. Je crois que là, vraiment... il y a une filiation qu'il faudrait assumer par rapport à Simone de Beauvoir. On la vit beaucoup comme à travers son héritage, et ce dont on a beaucoup parlé maintenant, mais il faut reprendre le flambeau, je crois. Il faut assurer la filiation. Elle l'a fait à 40 ans quand elle a écrit Le Deuxième Sexe. Je crois qu'il serait temps que pas mal d'entre nous essayons de se mobiliser là-dessus.
Mais moi, je voudrais ajouter quelque chose là, parce que je trouve extrêmement intéressant la façon dont tu poses la question, mais je crois qu'il faut différencier quand on parle des jeunes. Il faut différencier entre les jeunes qui ont 20 ans, les jeunes qui ont 25 ans et celles qui ont 30 ans. Parce que c'est des moments de la vie qui sont tellement cruciaux dans la vie des femmes. Entre 20 et 25 ans, tout est ouvert. Il y a encore peu de conflits personnels, en particulier par rapport à la maternité, par rapport au partage des tâches qui se posent. Chez les jeunes d'aujourd'hui, très souvent, avant que n'apparaisse l'enfant en particulier, ou le choix des carrières... Oui.
Tout est ouvert et tout l'espace des illusions est ouvert.
Oui,
parce que la grande diffusion des médias fait que les jeunes femmes croient que tout leur est possible et, tout, et elles vont tout faire.
Mais ce n'est pas seulement les médias. C'est aussi parce que pour beaucoup, il y a elles ont soit eu des mères féministes, parce qu'aujourd'hui, les femmes de 40 ans, elles sont, il y en a beaucoup qui sont féministes et qui ont essayé de transmettre à leurs filles un certain nombre de déconditionnements, disons, par rapport aux stéréotypes sexuels. Mais pour ces jeunes filles, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'âge qui veut ça. On a envie de se poser contre le modèle forcément de sa mère d'une part, et d'autre part, tout est acquis. Je crois beaucoup à la nécessité, si on veut sensibiliser les jeunes, quoique je sois assez pessimiste moi sur l'idée de vouloir sensibiliser les jeunes de 20 ans, je crois qu'elles se sensibilisent d'elles-mêmes vers 25, 27 ans, quand les difficultés de la condition féminine apparaissent véritablement pour elles. Mais enfin, si on veut les sensibiliser, je crois que c'est en montrant que les acquis ne sont pas tombés du ciel. Parce que c'est ça que les médias essayent de nous faire croire. C'est qu'il n'y a pas eu de lutte et tout ce qu'on a obtenu aujourd'hui à grand peine, et non seulement on essaye de les poursuivre, mais on essaye de garder le peu qu'on a eu. Il faut voir la question de l'avortement, par exemple, c'est ça. On essaye vainement l'avortement, on n'a rien obtenu, c'est vite vu, mais l'égalité des droits, par exemple, déjà ça, il faut le garder avant que ça fiche le camp avec la crise économique. Alors ça, je dirais que c'est une première chose par rapport aux jeunes, tu vois, d'aujourd'hui. Et puis l'autre chose, pour revenir à Simone de Beauvoir et dans la poursuite de ce que tu dis, c'est qu'elle a quand même posé, Simone, le débat nature-culture. Elle l'a posé d'une façon, elle est la première à l'avoir posé de cette façon-là, quand elle dit « on ne naît pas femme, on le devient ». Elle est la première à avoir montré l'importance des conditionnements en ce qui concerne le sexe. Et ça, je crois que les jeunes aujourd'hui, ils ont pigé ça. À mon sens, c'est là où se fait la filiation. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être pas convaincus que tout est d'origine culturelle. Ils peuvent penser, il y en a beaucoup d'autres qu'ils pensent, des plus âgés que les jeunes, qui pensent qu'il y a des choses d'origine biologique. Mais enfin, la question est posée. Et ça, c'est fondamental, à mon sens, chez les jeunes, aujourd'hui, comme prise de conscience. Les choses ne sont pas forcément biologiques.
Il y a aussi, je pense qu'il y a aussi quand tu dis il faudrait trouver une façon de faire prendre conscience, mais de parler, de faire un bilan. Les femmes, les mères, celles qui sont effectivement les mères des nouvelles générations, les féministes qui ont fait 10, 20, non, les protagonistes du nouveau féminisme après 68. On a aussi une certaine responsabilité dans le sens, pas seulement les féministes, mais aussi les femmes en général. On a une certaine responsabilité là-dedans parce que le bilan, effectivement, on peut faire un bilan très positif, mais on peut en faire aussi un négatif. C'est-à-dire, il y a les deux facettes, selon comment on veut regarder l'histoire. Et je pense que les jeunes, surtout les jeunes femmes, elles ont autour d'elles, soit dans leur vie individuelle, des mères qui se débattent avec des problèmes qui sont, c'est vrai, qui sont en partie insolubles et que la société a très peu évolué. Il y a peut-être eu des changements de loi, il y a peut-être eu des changements de comportement, et c'est vrai qu'une jeune fille qui a une mère, qui s'est battue pour avoir une profession, pour faire des études, pour être indépendante économiquement, pour se faire respecter et avoir une relation égalitaire avec un homme, qui sur un cas sur deux à Genève se divorce vers les 40-50 ans et qui après reprend une profession, qui assume, je sais pas, l'entretien économique de la famille, qui se débat avec des problèmes affectifs, qui essaye de vivre cette liberté qu'on a voulu, qu'on a revendiquée, qui essaye de la vivre, qui essaye de la pratiquer et qui essaie de mettre en pratique toutes les valeurs du féminisme. Et bien c'est, ou pas seulement du féminisme dans le sens le plus radical, mais aussi simplement la dignité, l'égalité de la femme. Ben, ces femmes, elles se débattent dans des sacrés problèmes. Moi, je suis la première à me débattre dedans. Et c'est pas parce que les femmes sont plus ou moins féministes ou engagées qu'elles les résolvent plus ou moins bien. C'est-à-dire que ça se résolve très difficilement. C'est-à-dire que ce qui est positif, c'est qu'il y a des volontés, des comportements qui sont cohérents avec des principes. C'est-à-dire que, par exemple, en grosso modo, les femmes font moins d'enfants parce que c'est des comportements qui signifient... Elles font, en partie, c'est la grève des ventres, effectivement. En partie, c'est pour vivre simplement leur vie. Et, bon, il y a aussi l'autre côté, c'est vrai que c'est pour élever mieux leurs enfants, hein. Parce que il semble qu'il y a moins d'enfants, en absolu, par exemple en Suisse, dans les pays développés, mais il y a plus de femmes qui font un enfant, qui font l'expérience de la maternité par rapport au début du siècle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de femmes qui font l'expérience d'une vie de célibat. C'est ce qu'on disait avant, par exemple, qu'il y a eu dans les années après la guerre, autour de la Première Guerre, il y a eu une expérience très forte du célibat, et qui avait une autre connotation que maintenant, effectivement. Mais il semble, bon, on n'a pas les statistiques précises, mais effectivement, il y a plus de femmes proportionnellement qui font l'expérience de la maternité que dans les années 20, par exemple. Mais les femmes en font moins. Il n'y a plus des femmes qui en font 10 ou 5. Il y en a de moins en moins. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il devrait y avoir un bilan beaucoup plus nuancé et plus sincère. Plus vrai de la part des femmes sur la difficulté de vivre maternité, mariage, carrière, travail. C'est-à-dire des difficultés qu'il y a, du stress, du prix qu'on paye. Et puis même pour celles qui essayent de vivre la liberté, l'égalité dans le travail, sans essayer la maternité, sans essayer une vie de couple ou un mariage, même pour celle-là, la difficulté. Mais ce n'est pas seulement en termes de plaintes, c'est aussi la différence qu'elles peuvent expérimenter, le malaise qu'on peut expérimenter, vivre dans un monde fait par les hommes. Simplement, les limites qu'on trouve à l'exercice de cette liberté, de nos droits. Et c'est, je pense que les jeunes femmes, nos filles de 20 ans, celles qui ont déjà 20 ans, elles ressentent ça. Elles ressentent ça et elles ont en face d'elles des mères qui ont de la peine à s'avouer. Je ne dis pas que c'est des échecs individuels et ce n'est pas des échecs historiques non plus, sociaux. Je ne pense pas qu'on peut en parler en termes d'échecs, mais c'est des difficultés. C'est des prix qu'on paye pour... vivre selon nos principes, selon les droits qu'on estime qui nous sont dus. Et c'est des prix qu'on paye, peut-être en souffrance, mais aussi ça n'a pas qu'une connotation de souffrance ou de négative. C'est aussi un côté de lutte, d'une vie qu'on doit prendre en main, qu'on doit mener avec... toujours avec attention, on ne peut pas se laisser aller, justement, hein, pour vivre selon ces... C'est-à-dire, on ne peut pas se laisser aller à vivre, par exemple, je ne sais pas, certaines choses que peut-être les jeunes, elles ont, ça ne leur fait pas envie, ce combat continu, quotidien. Et c'est pour ça que certaines valeurs les séduisent de nouveau.
C'est pour pouvoir enfin botter les fesses à ces vieillards qui nous ont dit que nos 20 ans, que notre jeunesse était le plus beau temps de la vie. C'est pour pouvoir enfin botter le cœur à ceux qui nous volent nos nuits, ces maladroits qui n'ont que leur ardeur, croulants qui n'ont que leur ennui. C'est pour cela, jeunes gens, qu'au fond de moi s'éveille le désir charmant de devenir vieille. C'est pour pouvoir un jour enfin leur dire à celles qui me jugent avec fureur, pauvre grognasse, c'est pour pouvoir vous dire je vous pardonne votre laideur. C'est pour pouvoir leur dire à ces matrones qui mille fois m'ont condamné, comment voulez-vous que l'on vous pardonne? Vous qui n'avez même pas péché, C'est pour cela, jeunes gens, qu'au fond de moi s'éveille le désir charmant de devenir vieille. C'est pour pouvoir, au jardin de mon cœur, ne soigner que mes souvenirs. Vienne le temps où femme peut s'attendrir et ne plus jalouser les fleurs. C'est pour pouvoir enfin chanter l'amour sur la cithare de la tendresse, et pour qu'enfin on me fasse la cour pour d'autres causes que mes fesses. C'est pour cela, jeunes gens, qu'au fond de moi s'éveille le désir charmant de devenir vieille. C'est pour pouvoir un jour oser lui dire que je n'ai bu qu'à sa santé, que quand j'ai ri, c'était de le voir rire, que j'étais seule quand j'ai pleuré. C'est pour pouvoir enfin oser lui dire un soir en filant de la laine, qu'en le trompant, mais ça, oserais-je le dire? Je me suis bien trompée moi-même. C'est pour cela, jeunes gens, qu'au fond de moi s'éveille le désir charmant de devenir vieille.
Alors, arrivé au terme de cette émission, je voudrais faire une annonce qui est en filiation directe avec tout ce dont nous avons parlé. Vous savez que Elisabeth Badinter vient de sortir un livre qui s'appelle « L'un et l'autre », E-E-E-S-T. Et elle a d'ailleurs rendu hommage à Simone de Beauvoir à plusieurs reprises dans les journaux en disant qu'elle était notre mère à toutes. On en a parlé tout à l'heure. Je voudrais annoncer qu'elle vient venir à Genève faire une conférence sur le thème des rapports entre les hommes et les femmes. Elle va venir le 5 juin, c'est un jeudi, à 20h30 à Unideux à Genève, donc, à la salle 260, ça se trouve au deuxième étage.
Radio Pleine Lune, 93,8 MHz. Nos émissions vont continuer encore un petit moment. Bonsoir.
Radio Pleine Lune, je vous rends attentive au fait que les émissions de Radio Pleine Lune passeront en différé, donc le débat sur Simone de Beauvoir ce soir, mais aussi les nouvelles et le memento qu'on a présenté, et l'émission sur le centre femme aussi qu'on a présenté avant. Pendant l'émission de Radio Pleine Lune, passeront encore ce soir, tard dans la soirée, en différé, et demain, pendant toute la journée, demain matin, demain après-midi. Donc vous pourrez les réécouter si ça vous intéresse, toujours sur 93,8 MHz sur Radio Zone. Bonsoir et à mercredi prochain.
How? how they ever flood my soul. Oh yeah. In the stillness of the midnight prayer, precious sacred scenes unfold. Yeah, prayer, precious Father, loving Mother, fly across the lonely years. And the old home scene. Oh, my childhood. In I found memories appear. Yeah, how they ever flood my soul, my little soul, in the steel. I've been scorned, I've been talked about as sure as your bone, but I got my hand on the plow, I'm holding on. You may talk about me as much as you please, but while you keep a-talking, gonna bend my knees. I got my hand on the plow, I'm holding on. Child, hold on, hold on, keep your hand on the plow, hold on, yeah, hold on, hold right on, yeah, keep your hand on the plow. Hold on. Sister Mary wore three links of chain, and every link was in my Jesus' name. I got my hand, child, on the plow. I'm holding on. Yeah, I've been beat and I've been scorned. I've been talked about as sure as you wanna, but I got my hand on the plow. I'm holding on. Well, I'm holding on. I'm holding on. I got my hand on the plow, holding on. Child, I'm holding on. Holding on. Poor pilgrim of sorrow, I'm a tossing this wild.